and we think we will win the election very easily.
Democracy is sometimes messy.
La démocratie, c'est souvent la pagaille, Joe Biden, et avant lui, le président Donald Trump, je crois que nous gagnerons très facilement cette élection. Édition spéciale présidentielle américaine 2020 sur VOA Afrique. Bonjour au micro Idrissa Seydoudia, en compagnie ce matin de Timothée Donangmaï, Jean-Roger Bion et nos invités, notre confrère René Lake à Washington et l'avocat Dennis Beaver de Bakersfield en Californie.
Bonjour à tous. L'issue de la présidentielle américaine reste incertaine, 72 heures après le scrutin du 3 novembre. Le challenger démocrate Joe Biden est proche de la majorité des 270 grands électeurs du collège électoral de 538 membres nécessaires pour être élu président des États-Unis. M. Biden a invité à la patience tandis que le président sortant, le républicain Donald Trump, et des membres de son parti ont poursuivi l'option judiciaire, se plaignant d'irrégularités à ce niveau. Le président Trump a demandé que le dépouillement prenne fin tout en accusant les démocrates, et je le cite, d'essayer de lui voler sa victoire.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal.
Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection, a dit M. Trump lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, après s'être déjà déclaré vainqueur dans la nuit de mardi à mercredi. Malgré l'interférence jamais vue dans une élection, des grands médias, du monde des affaires et des géants de la tech, nous avons gagné avec des scores historiques et les sondeurs se sont délibérément trompés, a poursuivi le président américain. Il n'y a pas eu la vague bleue, la couleur du Parti démocrate, annoncée.
Dans une brève allocution, plus tôt dans la journée de jeudi, son adversaire démocrate Joe Biden avait déclaré dans son fief du Delaware.
So, I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed.
Je demande à tout le monde de rester calme, le processus fonctionne. Le décompte s'achève et nous saurons très bientôt. Nous n'avons aucun doute sur le fait que lorsque le dépouillement sera terminé, nous serons déclarés vainqueurs. Nous ne pouvons permettre à personne de museler nos électeurs et de fabriquer les résultats. J'ai le sentiment que la justice devra trancher en fin de compte, a dit M. Biden, ajoutant qu'il est certain, je cite, de sa victoire imminente dans la course à la Maison-Blanche.
Et lui ça, les analystes politiques ont fait remarquer que si l'on arrêtait le dépouillement et gelait tout au stade où en était le décompte des voix jeudi matin, M. Trump perdrait l'élection, M. Biden ayant actuellement l'avantage.
Le dépouillement se poursuit donc dans des États clés comme la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie et le Nevada, où rien n'est encore décidé. Voyons avec Jean-Roger Bion où l'on en est dans cette course à la Maison-Blanche. Jean-Roger.
Bonjour Idrissa, bonjour Timothée, bonjour à tous nos auditeurs. Il est bon de rappeler la règle du jeu pour remporter la présidentielle américaine. L'un des deux candidats doit obtenir 270 voix au sein du collège de 538 grands électeurs désignés État par État. VOA Afrique et plusieurs chaînes de télévision américaines créditent le candidat démocrate Joe Biden de 253 grands électeurs contre 214 pour le président Donald Trump. Apparemment, il n'y a plus de doute que deux États basculent. Le Michigan et le Wisconsin sont bien tombés dans le giron de Joe Biden. Et c'était mercredi. À mesure donc que le dépouillement des États restants avance, l'avance de Donald Trump s'est réduite en Pennsylvanie et en Géorgie, tandis que Joe Biden conservait une courte avance dans le Nevada et en Arizona, des États décisifs. On va faire de l'arithmétique pour sonder à ce stade les différentes possibilités sur l'issue de ce scrutin. Une victoire en Pennsylvanie pourrait désormais suffire à Joe Biden pour être élu. Autre possibilité pour l'ancien vice-président d'accéder à la Maison-Blanche, d'évancer Donald Trump dans deux des trois États suivants, Géorgie, Nevada et Arizona. La route de Donald Trump vers une réélection semble plus escarpée. Pour gagner, le président sortant doit conserver son avance en Pennsylvanie nécessairement et en Géorgie, tout en s'adjugeant le Nevada ou l'Arizona, Idrissa.
Alors, nous retrouvons maintenant nos amis René Lake, journaliste basé à Washington, et l'avocat Dennis Beaver de Bakersfield en Californie, Tim.
Oui, alors Idrissa, je vais poser une question à Dennis Beaver. Dennis, on a vu donc le président Trump dans une déclaration dire que accuser du moins les démocrates de vouloir lui ravir la victoire à travers la fraude électorale. Alors, comment les Américains réagissent-ils à ces déclarations du président Trump?
Tu sais, j'ai voté pour Trump il y a 4 ans. J'ai voté pour lui il y a un mois par correspondance. Mais, son comportement depuis plus d'un mois et maintenant, je crois, moi, comme beaucoup d'Américains, on a ras-le-bol, on a marre. On est vraiment déçus. C'est l'embarras. Certainement pour sa famille, hein, la famille Trump. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un président qui, il se balade comme un gamin, un enfant gâté. Hein,
oui, dans beaucoup d'États, c'est la première fois qu'on recourt au vote par correspondance, au vote anticipé massif. Et cela pose quelque part quand même des problèmes logistiques qui pourraient entraîner des problèmes au niveau du décompte des voix.
Oui, certainement. Il y a des problèmes. Mais si tu as une quantité énorme de votes pour X, ok, disons 2 ou 3 cas de fraude ou truc qui ne va pas, ça ne changerait rien. Et à mon avis, Biden, il a une bonne possibilité de gagner.
Monsieur Beaver, avant de passer à René Lake, si j'ai bien compris, vous êtes un chaud partisan de Monsieur Trump. Il parle de fraude, il parle d'irrégularité. Est-ce que, en tant que républicain et pro-Trump, vous avez des preuves de tout cela?
Non, pas du tout. Et je ne suis pas républicain, je suis indépendant. Et je te dis que, oui, j'étais pour Trump, j'ai voté pour lui il y a plus d'un mois par correspondance. Mais son comportement ces jours-ci, surtout avec Covid, il nie les faits, les réalités. Alors ça m'écœure. Et je pense que ce qu'il a fait récemment, certainement récemment, c'est ça qui a provoqué cette réaction contre lui, ces votes contre lui. Il a fait beaucoup de bien pour le pays sur le plan économique. Mais alors, moi, comme beaucoup d'Américains, on en a ras-le-bol.
Excusez-moi maintenant, René Lake, quand même, et je ne fais pas l'avocat du diable ici, mais quand on a vu quand même le score très serré entre le président Trump et l'ancien vice-président Joe Biden, quand même, on voit qu'il y a encore presque la moitié du pays qui soutient le président Donald Trump.
Oui, écoutez, j'ai beaucoup aimé le 4, donc le 4, je suis perdu dans les jours, Idrissa, je crois que c'était hier ou avant-hier, peu importe, en tout cas au lendemain de l'élection, la une du Washington Post, c'était « A nation divided », une nation divisée. En fait, c'est ce qui ressort très clairement de cette élection, le pays est divisé en deux. Donald Trump réalise le plus grand score qu'un républicain n'ait jamais réalisé dans une élection présidentielle avec littéralement quoi, 69 millions de voix, qu'il a reçu 68 millions et quelques, mais disons, on peut arrondir à 69. Et Biden lui bat tous les records jamais obtenus par qui que ce soit une élection présidentielle, avec 4 millions de voix de plus, donc autour de 73 millions de voix. Je rappelle à vos auditeurs, Idrissa, qu'en 2016, il y a eu 139 millions de votants, 63 millions pour Trump et 66 pour Hillary Clinton. Donc c'était un record extraordinaire, mais c'est aussi un record extraordinaire, comme vous le laissez entendre tout à l'heure, en termes de division de l'Amérique en deux. Certains disent que depuis, au fond, la période de la guerre civile, l'Amérique n'a jamais été aussi clairement divisé en deux, et quelque part ça explique un peu le climat un tout petit peu délétère qu'il y a en ce moment, de tensions, de paranoïa, d'accusations par-ci et par-là, et bon, et on ne peut qu'attendre et voir ce qui va se passer.
René Lec, vous l'avez dit, le pays est divisé. On note aussi une division au sein du Parti républicain, où par exemple les sénateurs Ted Cruz du Texas et Lindsey Graham de Caroline du Sud ont exprimé leur appui aux revendications du président Trump, tandis que d'autres comme le sénateur Mitt Romney ou encore l'ancien sénateur Rick Santorum ont dénoncé les propos du président.
Tout à fait, c'était le cas déjà il y a deux jours, quand il avait fait un certain nombre de déclarations parlant de fraude, etc. Et au fond, les réactions de plusieurs leaders du Parti républicain contre Trump s'expliquent un peu par le fait que, au fond, si on fait attention, ce que Trump dit aujourd'hui, il le disait il y a trois mois, avant même qu'il y ait la moindre vote qui ne soit engagé, puisqu'il semblait clairement dire si je gagne, bon, tout va bien, mais si je perds, c'est que le système est tronqué et que ma victoire a été volée. Donc, on est dans une situation quasiment d'impossibilité. C'est plus que kafkaïen comme situation. Et c'est vrai, comme vous le dites, Tim, un certain nombre de leaders républicains ne semblent pas vouloir soutenir cela. Et j'avoue que j'ai été quand même assez surpris. J'ai écouté Ted Cruz sur Fox. J'ai lu le commentaire de Lindsey Graham. J'ai été très, très étonné que tous les deux prennent le risque, parce que c'est quand même un gros risque, sachant que, bon, le plus probable, c'est la défaite de Trump, c'est qu'ils prennent un tel risque de se positionner de la sorte, alors que, bon, ça va compliquer le rôle qu'ils pourraient jouer dans une reconstruction, quelque part, du Parti républicain après la phase post-Trump.
On peut préciser peut-être que Lindsey Graham et Ted Cruz répondaient à l'appel des enfants du président qui déploraient le fait que très peu de républicains, ils leur demandaient où vous cachez-vous, pourquoi vous ne parlez pas, pourquoi vous ne défendez pas notre père, etc. Mais je veux revenir à M. Dennis Beaver. M. Beaver, vous êtes avocat, n'est-ce pas?
Oui, je suis avocat, également journaliste. C'est deux métiers.
Voilà, l'un n'est pas incompatible avec l'autre, n'est-ce pas?
Ouais.
Alors, donc, vous savez qu'il y a cette option judiciaire que veut poursuivre le Parti républicain en allant donc à la justice pour avoir gain de cause. Quelles sont les chances de succès, compte tenu des réalités actuelles, les chances de succès et des particularités du vote américain avec les rôles que jouent les États, indépendamment du gouvernement central? Quelles sont les chances de succès de ces recours que veulent faire les républicains?
À mon avis, zéro dix voix. Hein. On dit en français 13 fois quelque chose, hein, bonne chance. Ici, c'est zéro, 10 fois, 20 fois, 100 fois. S'il n'y a pas de preuves, si on ne peut pas montrer à quelqu'un tricher ici, à gauche et à droite, ça va nulle part. Ça va nulle part. Mais ça va bouffer beaucoup, beaucoup de temps perdu.
Tim?
Oui, alors Dennis Beaver, le vice-président Joe Biden a appelé au calme et à la patience. On peut dire qu'il a beau jeu, puisque pour le moment, il est en avance dans un nombre des grands électeurs.
Oui, et tu sais, dans les villes comme Seattle, Portland, dans l'Oregon, à Portland, il y a encore une fois des émeutes, hein, pillages. Oregon, c'est un État américain tellement à gauche, mais c'est vraiment dingue. Ils sont en train de détruire le propre État. C'est ça qui fait peur, et Biden a bien raison. Il faut rester calme. Il faut attendre. Le problème, c'est évidemment Covid, et il y a beaucoup de gens qui ont voté par correspondance, puisque pour les raisons de santé, moi et ma femme, on a fait ça. Il y a, je pense, presque un mois, on a voté par correspondance. Mais il y a un feeling dans ce pays que ça ne va pas. Les gens ne sont pas contents. Il y a Covid. Aussi, il y a ces trucs franchement bizarres qui sortent récemment, mais vraiment, vraiment récemment, une ampleur incroyable de Trump.
Alors, René, il faudrait peut-être préciser que le président Trump a essayé de mobiliser le pays contre ce que M. Beaver appelait tout à l'heure les violences. Et ce sont des violences qui ont émaillé les manifestations qu'on a vues dans cette partie du nord-ouest des États-Unis.
Oui, tout à fait. Ce qu'on peut appeler le Black Lives Matter Movement, qui était globalement et pour l'essentiel un mouvement de protestation très fort, très engagé, tout à fait pacifique. C'est vrai, a été l'occasion pendant les manifestations, il y a eu des cas où il y a eu des débordements. Jusqu'à présent, pour l'essentiel, les débordements venaient plutôt de groupes d'extrême droite, mais il se pourrait, il y a quelques cas où effectivement il y a eu des excès de groupes que l'on pourrait qualifier plutôt d'extrême gauche. Donald Trump fait souvent référence à Antifa, qui est un mouvement, c'est pas vraiment un groupe en tant que tel, mais c'est un mouvement de gauche anti-fasciste et qui a des méthodes souvent violentes ou en tout cas fortement physiques. Donc c'est vrai que ça a créé un climat relativement délétère dans le pays, et Donald Trump en a profité pour se présenter un peu comme le président de la loi et de l'ordre. Bon, mais maintenant, bien entendu, du côté démocrate, on insistait sur le fait que l'essentiel des manifestations Black Lives Matter et de contre le racisme, contre en réaction au meurtre de George Floyd et autres, était pour l'essentiel tout à fait passif.
Peut-être que vous avez accordé une certaine attention. J'ai lu dans la presse que Donald Trump a amélioré son score auprès des Noirs, particulièrement auprès des hommes.
Tout à fait, et c'est vrai, et notamment en Floride, non seulement il a amélioré son score, il y a une petite percée chez les hommes noirs, mais également chez les latinos, les hommes latinos en particulier. Donc je crois que il y a là de quoi se poser beaucoup de questions pour le Parti démocrate qui se présente comme le parti des minorités. Et peut-être qu'au fond, bon, nous n'avons pas le temps à l'antenne là d'en parler, mais peut-être tout simplement c'est que aussi la composition de ces groupes-là n'est pas aussi homogène qu'on le croit, notamment les latinos qui ne sont pas tous d'origine cubaine ou vénézuélienne ou nicaraguayenne. Donc je crois qu'il y a là peut-être beaucoup de choses à dire, mais peut-être qu'on n'a pas le temps de le faire là à l'antenne.
Oui, mais peut-être que M. Dennis Beaver pourrait nous dire l'impact que cet appel aux Vénézuéliens, aux Cubains, en fait, aux originaires de ces pays, Comment est-ce que le fait de dire que bon, mais Biden, ce sera le socialiste, Biden sera l'otage du parti, de l'extrême gauche du Parti démocrate, que ça a dû quand même mobiliser ces communautés qui ont peur qui ont fui l'expérience vénézuélienne et l'expérience cubaine?
Exactement, exactement. Moi, j'ai peur de tout ça. Hein. Si Biden est élu, les impôts vont augmenter. Tu vas voir des problèmes incroyables, à mon avis. Et lui, Harris, qui est tellement à gauche, la dame qui est vraiment compétente, hein, elle est avocate, ancienne avocate générale de Californie, c'est une femme vachement compétente, mais tellement à gauche. Et c'est ça que beaucoup de gens ont peur, vraiment peur. Et oui, Trump, il en profite, certainement.
Tim?
Oui, alors on a parlé de la présidentielle, mais l'enjeu de ces élections du 3 novembre, c'était aussi le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat. Et on sait que, on a l'impression, René Lecq, que finalement, ce sera le statu quo, que les républicains vont maintenir le contrôle du Sénat et les démocrates, celui de la Chambre.
Oui, c'est l'impression que l'on a. Vous savez, je crois que l'un de vos collègues le disait tout à l'heure dans un reportage que vous avez diffusé, qu'il y avait une marée bleue qui était attendue, mais qui effectivement ne s'est pas du tout produite, notamment au niveau du Sénat, et qui fait que, au fond, les démocrates il y a très peu de chances en tout cas, on peut dire tout de suite qu'ils ne vont pas contrôler le Sénat, mais il y a une chance qui reste parce qu'il va y avoir une reprise des élections pour deux postes de sénateurs en Géorgie, qui auront certainement lieu début janvier. Si effectivement les démocrates gagnaient ces deux postes-là, plus éventuellement celui de Mark Kelly en Arizona, on se retrouverait avec un Sénat à 49-49. Et à ce moment-là, si Biden l'emporte, la vice-présidente Kamala Harris pourrait être ce qu'on appelle le tiebreaker, ce pourrait être elle qui pourra faire la différence et donc donner l'avantage aux démocrates à ce moment-là. Donc, ça fait quand même beaucoup de si, mais toujours est-il que vous avez tout à fait raison, on peut considérer que c'est à peu près le statu quo à un ou deux postes sénatoriaux près. Maintenant, au niveau du
Congrès,
de la Chambre basse, par contre, les démocrates ont même perdu. On en est au moins à 5, ils ont au moins perdu au moins 5, il se pourrait même qu'ils en aient perdu un peu plus. Ils garderont la majorité, malgré tout.
Une majorité étriquée, comme on dit.
Tout à fait.
Merci René Lecq, merci Denise Beaver, merci. Le président Trump, jeudi matin, avait tweeté en lettres capitales « Arrêtez de compter ». Alors que des caisses de bulletins de vote envoyés par courrier majoritairement favorables à Joe Biden sont décomptées. À Phoenix, dans l'Arizona, une foule pro-Trump s'est massée hier à l'extérieur d'un site de dépouillement au cri de « Comptez les voix » et de « Honte à Fox », la chaîne de télévision qui, dès mardi soir, avait donné cet état à M. Biden, qui y perd son avance. À noter qu'en revanche, dans les États où le candidat républicain était derrière son rival démocrate, comme dans le Michigan, ses partisans lançaient « Stopper le vote », demandant d'invalider les bulletins non comptés le jour même de l'élection. Dans le Michigan et la Géorgie, deux juges ont déjà rejeté des recours républicains.
Il faut dire que ces manifestations et contre-manifestations, ainsi que le caractère serré de cette présidentielle américaine, reflète une profonde division du pays. Elisabeth Lee de la VOA évoque ces divisions dans ce reportage, un récit d'Abdourahmane Dia.
L'élection présidentielle révèle que les Américains semblent vivre dans deux réalités différentes en fonction de leurs préférences politiques. Jeff est un partisan de Joe Biden.
Ça me rend malade. Je ne connais plus ce pays, mais vraiment pas. Je pense que Donald Trump l'a détruit.
I think Donald Trump broke it.
Beth Jordan soutient Donald Trump.
Eh bien, il a amélioré l'économie à mon avis. Mon épargne retraite a augmenté, mes taux sont à hausse. Je gagne plus d'argent maintenant et mes actions ont augmenté et je gagne plus d'argent.
Ces deux points de vue reflètent les profondes divisions dans le pays. Michael Alvarez est professeur de sciences politiques au California Institute of Technology.
Nous sommes divisés sur des bases partisanes et idéologiques. Nous sommes divisés sur de nombreuses questions sociales et économiques. Nous sommes divisés dans nos opinions et nos réactions face à la pandémie.
La soirée électorale n'a pas produit la vague bleue que les démocrates espéraient. Les sondages avaient montré Biden en tête dans l'état clé de la Floride, que Trump a finalement remporté. Pourquoi les sondages d'opinion ont été bien loin de la réalité ? Michael Alvarez.
Il se pourrait très bien que pendant la pandémie, bon nombre de ces hypothèses sur la manière de cibler les sujets d'une enquête, puis l'analyse des données, aient été systématiquement erronées.
Alors que la campagne de Biden s'est concentrée sur la gestion de la pandémie par Donald Trump, la course serrée montre que les démocrates ont peut-être mal évalué l'importance des autres sujets qui ont conduit les électeurs à soutenir Trump. À nouveau, Michael Alvarez.
Ils se sentent exclus. Ils ont l'impression que eux-mêmes et leurs familles ont raté des opportunités. Et je pense que c'est le genre de mécontentement que Trump a vraiment réussi à saisir. Et je ne pense pas que cela ait changé. Depuis 2016, en effet, cela a peut-être empiré.
L'écart serré entre les candidats montre aussi un changement démographique et politique aux États-Unis, selon le politologue Michael Alvarez.
Je pense que le soutien prévisible de différents segments comme les Noirs pour le Parti démocrate, ce n'est pas une chose sur laquelle les démocrates peuvent compter. Et je pense qu'ils doivent vraiment travailler pour gagner les votes des Noirs, des Latinos et des Hispaniques.
Tracy Hinson, de l'État du Delaware, a voté pour Trump.
Je n'ai pas vu beaucoup d'enthousiasme pour Joe Biden. Je veux dire que je n'en ai pas vu.
Beth Jobson, qui est pour Biden, dit qu'elle veut un changement loin des divisions des quatre dernières années.
Je prie pour que notre pays se remette, pour que nous puissions nous unir, nous asseoir et avoir une conversation où on écoute tout le monde.
Le prochain président devra faire face à la pandémie et à ses conséquences économiques tout en essayant de diriger un pays divisé.
Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale présidentielle américaine 2020. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia, Timothée Donagmaï, Jean-Roger Bion, Lionel Gahima à la mise en onde et Karl Starling à la console. Merci à nos invités René Lecq et Dennis Bieber. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.